VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du vendredi 29 mai 2015. À la une ce soir.
Un nouveau président entre en fonction au Nigeria. Le pays est en proie à de sérieux défis, dont l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram.
Au Burundi, des protestations émaillées de violence font au moins un mort et deux blessés aujourd'hui dans la capitale Bujumbura.
Le sang a encore coulé à Bagdad. Deux explosions ont fait 15 morts et plusieurs dizaines de blessés en plein cœur de la capitale irakienne.
Le rapprochement américano-cubain se poursuit. Washington annonce que l'île communiste de la Caraïbe n'est plus sur la liste noire de pays soutenant le terrorisme.
Et Sepp Blatter est réélu à la tête de la FIFA.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal. Le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari a prêté serment aujourd'hui. Il s'est aussitôt engagé à relever les énormes défis qu'affronte le Nigeria, au premier rang desquels figure la rébellion islamiste de Boko Haram. Idriss Fall.
Le Nigeria affronte des défis énormes, a déclaré le tout nouveau président qui a promis de les prendre à bras-le-corps devant une foule et de nombreux dignitaires à Abuja. Muhammadu Buhari a ajouté que Boko Haram est un groupe de gens fous et sans Dieu et qui sont aussi éloignés de l'islam. Il a indiqué qu'il mettrait en place un nouveau centre de commandement militaire à Maïdougouri au lieu d'Abuja pour les combattre. Il a aussi qualifié de honte nationale les problèmes d'électricité du premier producteur pétrolier d'Afrique. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en décembre 1983, Muhammadu Buhari en avait été chassé 20 mois plus tard par un autre coup d'État. Ironie de l'histoire, Buhari, 72 ans, à la cérémonie d'investiture, a serré la main à Shehu Shagari, qu'il avait renversé en 1983, et celle du général Ibrahim Babangida, qu'il avait évincé du pouvoir en 1985. Il avait fait une traversée du désert et a essuyé trois échecs électoraux avant de finalement gagner les élections le 28 mars dernier.
Quatre soldats tchadiens et 33 combattants islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad, mercredi. C'est ce qu'a déclaré l'armée tchadienne aujourd'hui. On écoute Nathalie Barge.
De violents combats ont eu lieu entre Boko Haram et les forces armées du Tchad mercredi à Choua, une île tchadienne du lac Tchad, selon le porte-parole de l'armée, Azem Bermandoa Aguna, précisant que 33 djihadistes ont été abattus. Du côté de l'armée tchadienne, 4 soldats sont morts et 4 blessés, d'après le colonel, qui ajoute que depuis jeudi, l'aviation mène des raids aériens sur les positions des extrémistes sur le lac. Depuis 5 mois, quelques 5000 soldats tchadiens participent à une opération régionale contre le groupe islamiste. De violents combats ont eu lieu depuis janvier dans le nord-est du Nigeria et également sur les territoires nigériens et tchadiens. Les troupes du Tchad interviennent aussi dans le nord du Cameroun, où les djihadistes opèrent depuis au moins 2 ans. N'Djamena a enregistré de nombreuses pertes dans le cadre de cette opération. 71 soldats tchadiens ont péri dans les affrontements.
Au Burundi, deux grenades ont explosé ce vendredi à Bujumbura, toujours en proie à la contestation populaire contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Au moins un manifestant a été tué par la police. Jacques Aristide.
Plusieurs quartiers de la capitale burundaise, ébranlés par des tirs nourris d'armes automatiques jusque tard dans la soirée d'hier. D'après des témoignages recueillis par l'AFP à Musaga, Chibitoke, Bouiza, la police a tenté de disperser des manifestants qui s'apprêtaient à organiser leur rassemblement. Un véhicule privé a été incendié pendant la nuit à Bouiza. Ce vendredi matin, la police était de nouveau déployée dans ces mêmes quartiers et ratissait les ruelles. Des militaires participaient aux opérations et faisaient également des tirs de sommation. Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est doivent se retrouver ce dimanche à Dar es Salaam pour tenter de sortir le Burundi de la crise.
Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé que le dialogue politique entre les parties burundaises sera suspendu ce week-end. Un autre sommet régional est prévu dimanche en Tanzanie. Et de son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara promet de quitter le pouvoir après 2 mandats s'il est réélu en octobre. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission de l'Union africaine, Kosazana Dlamini Zuma, après un entretien avec lui en marge de la 50e réunion annuelle de la Banque africaine de développement à Abidjan. À noter que la constitution ivoirienne interdit à M. Ouattara de faire un troisième mandat.
Le président du Burkina Faso, prochainement en France, du 31 mai au 7 juin, Michel Kafando effectuera sa première visite officielle dans l'ancienne puissance coloniale. L'objectif, d'après la présidence, est de renforcer la coopération entre les deux pays. Michel Kafando va s'entretenir avec son homologue français François Hollande le 1er juin au Palais de l'Élysée.
Libération à Dakar, au Sénégal, de l'opposante Aïda Diongué, détenue depuis près de 18 mois pour escroquerie au détriment de l'État. C'est ce que rapporte l'AFP, citant les avocats de Madame Diongué. Elle avait été arrêtée en décembre 2013 pour faux, usage de faux et escroquerie. Aïda Diongué a non seulement obtenu sa remise en liberté, la justice sénégalaise a aussi ordonné la restitution de ses comptes bancaires et biens saisis, apprend-on de même source. Le ministère public a annoncé sa décision d'interjeter appel.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance des consultations aujourd'hui en vue d'un dialogue politique. Le calendrier électoral devrait être au menu des discussions, a indiqué à l'AFP un responsable sous couvert d'anonymat. Estimant qu'il s'agit d'un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir illégalement, une partie de l'opposition congolaise a d'ores et déjà rejeté ce dialogue politique.
En Libye, le groupe État islamique a pris le contrôle de l'aéroport de Sirte après le retrait hier soir des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya. Et c'est du moins ce qu'annonce un responsable libyen de l'organisation djihadiste cité par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président de la FIFA, Joseph Blatter, a été réélu ce vendredi pour un cinquième mandat consécutif, en dépit de la grave crise qui secoue actuellement l'instance dirigeante du football mondial. Bagassi Koura, le vote a pourtant révélé l'émergence d'un mouvement pro-changement à la tête de la FIFA.
Oui, malgré tout, Joseph Blatter a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'instance mondiale du football. C'est son cinquième mandat, mais il a été contraint à un second vote qui n'a pas eu lieu puisque le prince Ali s'est retiré. Lors du vote, Blatter, âgé de 79 ans, n'a récolté que 133 voix et le prince Ali, lui, a obtenu 73 voix. « Je suis de bonne humeur, c'est normal, j'étais un peu nerveux avant ce congrès », a commenté Blatter alors que son instance est frappée par une des plus graves crises de son histoire avec un scandale de corruption planétaire. Hier encore, Sepp Blatter a tenté de justifier son bilan et qu'il ne pouvait pas surveiller tout le monde parlant du scandale donc de corruption qui secoue son organisation. Malgré tout, les appels à la démission du président sortant donc n'ont rien pu et au finish ce cinquième mandat pour Sepp Blatter.
Une double explosion dans deux hôtels de luxe de Bagdad ont fait au moins 15 morts et 42 blessés. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des sources officielles dans la capitale irakienne. Selon la police, les terroristes ont fait exploser deux voitures piégées par télécommande. Les deux hôtels étaient pourtant bien protégés.
En Arabie Saoudite, au moins 4 personnes ont été tuées lors d'un attentat suicide dans une mosquée chiite. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion qui s'est produite à Dammam, dans l'est du royaume. La semaine dernière, 21 fidèles ont trouvé la mort dans des conditions similaires à Katif, sur la côte du Golfe. De telles attaques sont rares en Arabie Saoudite, un pays qui partage une vaste frontière avec deux pays instables, l'Irak et le Yémen.
Le taux de croissance de l'économie américaine revu à la baisse pour le premier trimestre. Selon le département du commerce, la contraction enregistrée de janvier à mars 2015 était de 0,7%. Elle a raison, un hiver rigoureux, la baisse des cours du brut et un dollar trop fort. Les économistes prédisent malgré tout une reprise prochaine de la croissance économique.
Cuba ne fait plus partie des pays considérés par les États-Unis comme soutenant le terrorisme. La décision annoncée aujourd'hui par le département d'État américain devrait faciliter l'accélération des pourparlers sur l'ouverture d'ambassades à Washington et La Havane. L'administration Reagan avait placé Cuba sur cette liste noire en 1982 à cause de son soutien présumé aux séparatistes basques de l'ETA et aux rebelles FARC en Colombie.
Des femmes interdites de prendre le volant. Vous pensez peut-être à l'Arabie Saoudite, mais cela se passe dans une grande capitale occidentale. Un membre de la communauté Bells de Londres, des juifs ultra-orthodoxes, a confié à l'AFP que sa branche du mouvement, née en Ukraine au XIXe siècle, a choisi d'imposer ce style de vie. Peu importe les critiques, les mères ne sont pas autorisées à conduire leurs enfants à l'école en voiture. Sinon, l'admission leur sera refusée, a-t-il dit. Les critiques fusent de partout et le gouvernement britannique promet une enquête.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jacques Aristide.
L'Afrique, vulnérable au ralentissement de l'économie chinoise, c'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'agence de notation Standard & Poor's, ou S&P en un mot. Le danger découle de la trop grande dépendance, voire la surexposition des pays de l'Afrique subsaharienne à la Chine depuis cette dernière décennie, d'après S&P. Cette dépendance se fait tant en matière d'exportation qu'en investissements directs à l'étranger. La chute des prix des matières premières, affectant nombre de pays africains, est liée en partie à la baisse de la croissance chinoise. En République démocratique du Congo, accord entre Procredit Bank Congo et le groupe kényan Equity Bank pour le rachat de 79% d'actions dans l'établissement bancaire congolais. C'est ce que rapporte Radio Okapi qui indique que les deux firmes attendent pour l'heure le feu vert des banques centrales de la RDC et du Kenya. Ce rachat fait partie du programme d'expansion d'Equity Bank à travers 10 pays africains. Aussitôt la transaction approuvée, Equity deviendra du coup le plus grand actionnaire de Procredit. Les actions ont été vendues par la Société belge d'investissement pour les pays en développement et la fondation Doen d'Allemagne. Et puis, l'activité économique s'est contractée aux États-Unis entre janvier et mars pour la première fois depuis un an, plombée par un hiver rigoureux et l'appréciation du dollar, rapporte l'AFP citant la deuxième estimation publiée ce vendredi par le département du commerce. Au premier trimestre, le produit intérieur brut américain a reculé de 0,7% en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières.
Voilà pour la Minute Éco. Merci à Jacques Aristide.
Place au sport, présentation Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérumain, bonsoir à tous.
Alors, on commence par la réélection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA.
Oui, Joseph Blatter a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'instance mondiale du football. C'est son cinquième mandat, mais il a été contraint à un second vote qui n'a pas eu lieu puisque le prince Ali s'est retiré. Lors du vote, Blatter, âgé de 79 ans, n'a récolté que 133 voix et le prince Ali a obtenu 73 voix. Je suis de bonne humeur, c'est normal, j'étais un peu nerveux avant le congrès, a commenté Blatter alors que son instance est frappée par une des plus graves crises de son histoire avec un scandale de corruption planétaire. Hier encore, Blatter a tenté de justifier son bilan et qu'il ne pouvait pas surveiller tout le monde. Parlant de ce scandale de corruption, les appels à la démission du président sortant de la FIFA se sont multipliés et au finish, ce résultat, un cinquième mandat pour Blatter.
Et quelqu'un qui avait demandé personnellement à M. Blatter de démissionner, Michel Platini, le patron de l'UEFA. Après le vote aujourd'hui, Platini a déclaré « Je suis fier d'avoir soutenu un mouvement pour le changement à la tête de la FIFA ». Le Mali dévoile la liste des joueurs retenus pour le premier match qualificatif de la CAN 2017.
Oui, le sélectionneur du Mali, le français Alain Giresse, a dévoilé une liste de 24 joueurs pour le match contre le Soudan du Sud le 13 juin à Bamako. Les Aigles devront toutefois se passer des services de plusieurs joueurs majeurs en raison de leurs blessures. Il s'agit du gardien de but Mamadou Samassa de Guingamp en France, le défenseur Mola Ouagé de Udinese en Italie, le milieu de terrain Ahmed Tongo Doumbia de Toulouse en France, les attaquants Cheikh Tidiane Diabaté de Bordeaux et Mustapha Yatabaré de Trabzonspor en Tunisie. En revanche, le défenseur Ousseinou Cissé de Dijon en France, âgé de 24 ans, va honorer une première sélection.
Alors, on fait ses valises pour la Californie, NBA, Golden State Warriors et Cleveland Cavaliers.
Oui, c'est le premier match de cette finale 2015 est prévu pour le 4 juin prochain. En attendant, Chérubin, les premières têtes commencent à tomber. Les Chicago Bulls, éliminés au deuxième tour des playoffs, se sont séparés de leur entraîneur Tom Thibodeau en place depuis 2010. La décision des Bulls était largement anticipée en raison des problèmes récurrents entre Thibodeau et ses dirigeants.
Voilà les sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guériec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burundi.
Oui, le dialogue politique suspendu au Burundi avant le sommet régional de dimanche à Dar es Salaam. Les Nations Unies espèrent que le sommet régional prévu dimanche donnera un nouveau souffle aux négociations, toujours bloquées autour de la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les opposants à ce troisième mandat n'attendent pas grand-chose de ce sommet, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique à Nicolas Pino, Pierre Claver Mbonimpa de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues.
Ça fait quelques jours que nous dialoguons avec le gouvernement, avec quelques partis d'opposition, mais on n'a pas traité beaucoup de choses parce qu'on a seulement parlé sur l'ouverture des médias, sur l'harmonisation des manifestations, sans toutefois toucher sur la question cruciale qui est la cause. Je dirais qu'on a commencé à étudier les conséquences sans commencer à étudier les causes, ce qui n'est pas possible. Alors je dirais que nous n'avons pas eu de consensus, il n'y a pas eu de communiqué, c'est-à-dire qu'on a suspendu pour laisser la place à la conférence des chefs d'État. C'est la raison pour laquelle on a dû suspendre les travaux jusqu'à ce que cette rencontre des chefs d'État se prononce. Nous tous, nous sommes en suspect et nous attendons ce qu'ils vont nous dire.
Mais attendez-vous vraiment quelque chose de positif de ce sommet de Dar es Salaam?
Je sais que presque les présidents africains, ils ont même ambition de briguer, de rester au pouvoir très longtemps. Et quelquefois, les uns soutiennent les autres, mais quand même voir avec les déclarations de la communauté internationale. Mais comme les Européens ont dit que la question va trouver une réponse juste à partir des Africains même, là nous attendons, mais franchement, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que quelques présidents entrés, eux aussi, ils ont déjà dépassé 2 mandats, 3 mandats et ils peuvent même y rester, raison pour laquelle ils peuvent soutenir Nkurunziza.
Pensez-vous qu'au moins c'est une des demandes fortes de la communauté internationale, les élections vont être reportées de plusieurs mois?
Bon, je crois même que c'est la seule solution parce que les élections prévues le 5 ne peuvent pas être possibles. Même, je ne pense pas que la population burundaise pourra accepter à ce qu'il y ait les élections pour, je dirais, en seule partie au pouvoir avec ses acolytes proches. Raison pour laquelle, pour moi, je considère que reporter au moins pour 6 mois, même pour une année, serait une bonne chose pour pouvoir préparer les autres partis pour qu'ils participent dans les élections. Et comme ça, on aura des élections paisibles et apaisées.
Pierre Claver Mbonimpa, l'un des dirigeants de la société civile au Burundi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et dialogue politique lancé en République démocratique du Congo sans une partie de l'opposition. Seuls l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et quelques formations politiques apparentées sont parties prenantes aux consultations entamées aujourd'hui par le président Joseph Kabila. De quoi est-il question dans ce dialogue? Eddy Sango a posé la question au porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Le président est en pleine consultation et certains appellent cela dialogue politique, d'autres l'appellent consultation. Je ne sais pas pourquoi vous voulez séparer consultation et dialogue. Il parle avec les acteurs politiques et les civils.
Il y a eu des concertations politiques en 2013, dont les derniers gouvernements d'Union nationale et l'un des résultats en quoi le dialogue entamé sera différent.
Il n'a jamais été dit qu'après les concertations, le président ne parlerait pas avec ses compatriotes. Il a dit que Mais le dialogue politique est un processus qui est permanent, tous les jours, avec tous les autres partenaires de la vie publique.
Sous quel format se tient ce dialogue? Est-ce que tout le monde y est convié en même temps?
Le président de la République reçoit ses compatriotes, reçoit les responsables de différentes structures politiques et sociales, il reçoit les gens. Les gens lui parlent, lui leur parle, il les écoute, ces gens l'écoutent aussi. On parle du Congo, des Congolais.
Mais une partie de l'opposition ne veut pas de ces dialogues, monsieur le ministre.
Nous n'avons jamais dit que nous cherchions l'unanimisme. Nous ne sommes pas un pays de l'unanimisme, mais d'ailleurs, ce pays-là n'existe pas au monde. Nous n'avons pas inventé la route. Partout au monde, lorsqu'il y a une initiative de toute nature, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ceux qui sont pour viendront, ceux qui sont contre ne viendront pas. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de nous parler.
L'UDPS, qui tient à ces dialogues, pense que cette discussion est une occasion pour elle de reprendre le pouvoir, car pour elle, vous le savez, Étienne Tshisekedi a remporté l'élection de 2011.
C'est l'UDPS qui a pris l'initiative, le président a répondu. Donc, c'est assez bizarre que celui qui prend l'initiative commence à parler de cette manière-là. Puisque l'initiative du président a été les concertations dont vous avez parlé, qui ont produit leurs effets. Nous sommes en train de mettre en œuvre les résolutions d'une concertation.
Est-ce que la candidature du président Joseph Kabila pour un troisième mandat ne sera-t-elle pas remise sur la table comme le pense l'opposition qui s'oppose à ces dialogues?
Il n'est pas prévu déjà un ordre du jour. Le président reçoit des gens. Il faut attendre les devins pour savoir qu'on va parler de ce que vous appelez glissement, etc. Des gens qui ont peur même du fait même que le Congolais se rencontre. Il faut bien que le Congolais se rencontre pour parler de ce qui les intéresse. Personne ne va forcer quelqu'un à parler de ce qu'il n'a pas envie d'entendre.
Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Lambert Mende.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Demain, samedi 30 mai, sera la journée d'hommage aux martyrs au Burkina Faso. Le gouvernement de la transition veut rendre un hommage à ceux qui sont morts lors de l'insurrection d'octobre 2014. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a dressé une liste de 34 victimes pendant l'insurrection et déplore que rien ne soit prévu pour plus de 600 blessés. Dramanoué Draogo est le président de l'association des victimes de l'insurrection.
C'est le principe que les gens utilisent pour cette commémoration qui était quand même une difficulté pour nous à accepter. Parce que déjà que nous-mêmes, sur le plan non seulement sanitaire, il y avait des problèmes. Il y en a qui sont toujours dans, au niveau des salles d'opération. Nous qui sommes vivants et qui non seulement devaient, ne serait-ce comment, désintéresser ou alors assister sur le plan sanitaire et aussi non seulement qu'ils donnent quelque chose aux différents blessés pour qu'ils continuent de se soigner. S'il faut découvrir les morts, ça, je vois que c'est un peu à mal donne, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous vous dites au sujet de cette polémique soulevée par le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme, qui dit qu'il ne va pas participer aux manifestations parce qu'il n'y a pas de justice?
Ben oui, parce que en fait, le MBDHP, c'est quand même nos collaborateurs parce que nous avons fait du chemin ensemble et nous avons déposé des plaintes ensemble sur les blessés de l'insurrection et les victimes de l'insurrection en général.
Depuis quand?
Ça s'est passé il y a plus d'un mois et c'est avec le MBDHP qu'on a déposé cette plainte-là au niveau du parquet.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette journée d'hommage soit acceptable pour vous?
Considérer tous ceux qui sont sortis ce jour-là et qui ont non seulement d'autres morts et nous autres blessés, que nous soyons pris de sorte à ce que nous sachions que notre combat n'a pas été un combat vain. Parce qu'actuellement, il y a d'autres peut-être qui récupèrent ce combat et puis qui l'utilisent à d'autres fins, alors que nous, ce que nous on demande simplement, nous sommes tellement dans un système non seulement économique, non seulement déréglé, qui fait que ce qui semble être pour certaines autorités quelque chose de pas grand-chose, pour nous est très considérable parce qu'il n'y a rien. Il y a le minimum même pour survivre, c'est vraiment la catastrophe. Et si nous sommes sortis et si nous avons risqué nos vies pour actuellement nous retrouver en train de ramer en contresens, alors ça pose problème. C'est pour ça que je trouve que cette journée, ça vient nous amener à nous rappeler de nos collègues qui sont morts dans ce combat, mais en même temps que de toute façon, décorer quelqu'un à titre posthume, c'est bien pour ceux qui sont en train de coiffer la manifestation. Mais nous qui sommes en train de souffrir toujours, nous voyons que ces décorations et tout ça à titre posthume n'ont aucun sens.
Voilà, nous écoutions Draman Ouédraogo, président de l'Association des victimes de l'insurrection au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Et défis et perspectives de la Banque africaine de développement après l'élection d'un nouveau président, la personne du Nigérian Akinwumi Adenisha. Jean-Roger Billon a joint à Abidjan l'économiste Maurice Saé.
Bon, moi j'estime que c'est un rituel. Celui qui est parti a fini son mandat, il est remplacé par un autre, mais la base continue. Ça veut dire que la politique, la base restera la même. C'est pas parce qu'il y a un nouveau président que la politique, la base va changer.
Alors, M. Adenisha est précédé d'un impressionnant curriculum vitae. Vous pensez que ça pourra jouer dans les prochains challenges?
En tout cas, moi je n'y crois pas à son aura personnelle. Parce que la base, c'est une institution. C'est pas l'affaire d'un seul bonhomme. C'est pas sa banque. Il est directeur d'une institution collective et donc qui a une politique qu'elle défend depuis des années. Il n'est pas très loin de celle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire d'ailleurs. Et c'est cette politique-là qui va continuer.
Alors le fait qu'il vienne de la première puissance économique africaine peut-elle ajouter quelque chose à son travail?
Peut-être dans ses rapports avec d'autres banquiers, avec d'autres pays. Mais fondamentalement, par rapport à la base, je ne crois pas que ça puisse jouer un grand rôle.
Alors quels sont les défis auxquels, selon vous, pourra-t-il être confronté maintenant?
Mais les défis, c'est le financement du développement en Afrique. Parce que beaucoup d'États parlent d'émergence, mais l'émergence suppose des capitaux abondants, des ressources financières extrêmement importantes, ce que n'a pas toujours l'Afrique. Et donc, si Dabat peut continuer à financer des programmes de développement, je pense que ce serait une bonne chose.
Pensez-vous qu'il y ait des priorités dans le mandat qu'il va entamer en septembre?
Si vous me demandez mes priorités à moi, j'aurais dit le financement du social, parce que la misère est grandissante, la pauvreté a bondi de plusieurs pas en Afrique, donc il voudrait mieux peut-être combattre la pauvreté. Mais combattre la pauvreté, c'est aujourd'hui le langage du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à travers l'initiative EPTE. Si c'est la même chose, je crains fort qu'il n'y ait pas d'aménagement substantiel.
L'économiste ivoirien Maurice Saé.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Un nouveau président entre en fonction au Nigeria, Muhammadu Buhari, a prêté serment ce vendredi. Le pays est pourtant en proie à de sérieux défis, dont l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram.
4 soldats tchadiens et 33 combattants islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad, mercredi. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'armée tchadienne.
Au Burundi, les protestations émaillées de violence ont fait au moins un mort et deux blessés aujourd'hui dans la capitale, Bujumbura.
Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé que le dialogue politique entre les parties burundaises sera suspendu ce week-end.
Le président du Burkina Faso, prochainement en France, Michel Kafando, effectuera sa première visite officielle dans l'ancienne puissance coloniale du 31 mai au 7 juin.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance des consultations aujourd'hui en vue d'un dialogue politique.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Michel Joseph qui a dirigé la partie technique ce soir. À la présentation, Morgane Guiriac et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.